On dit que tout le monde a des secrets, mais est-ce que vous pensez vraiment que tout le monde a des secrets et qu'il n'y a pas des gens qui n'ont aucun secret, justement ?
Moi, je pense que tout le monde en a, parce qu'il y a une certaine nécessité, en fait, à conserver certaines choses secrètes. Et, enfin, ouais, pour son propre bien-être, pour le bien-être des autres.
Pour se protéger, tu penses ?
Ouais, carrément. Peut-être se protéger du jugement des autres. Et puis, aussi pour protéger, pour le coup, les gens qui nous entourent. Et parce qu'il y a des choses qui méritent de ne pas être révélées.
C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.
Je pense en effet que le rôle d'un philosophe, c'est de déranger. Un philosophe qui arrangerait, qui réarrangerait les choses, ne jouerait pas, je crois, le rôle qu'on doit jouer actuellement, le philosophe et la philosophie. Mais on ne dérange jamais assez, enfin, en tout cas, j'ai eu conscience d'avoir dérangé bien peu et bien moins que je n'aurais voulu.
À vrai dire, au jardin, je n'aime dire travailler, car je suis littéralement absorbé par les formes, les couleurs, la lumière, et je préfère l'ombre du bureau pour écrire.
Après amour, toujours, il y a la possibilité de renoncer à tout ce qu'il faut, à tout ce qui est à moi, tu vois, pour quelqu'un d'autre. Je suis responsable de la misère d'autrui, même souvent de la bêtise d'autrui.
Bienvenue sur Radio Piolle.
Vous écoutez Radio Piolle et aujourd'hui on va parler du secret avec Élise, Maëlle, Anthony et moi-même Marianne. Alors Maëlle, parle-nous de l'étymologie du secret.
Le mot secret vient du participe passé latin secretum, ce qui veut dire ce qui est mis de côté, ce qui est caché et donc ce qui existe parallèlement à nos vies.
D'accord, bah c'est marrant ce que tu dis par rapport au fait que ça existe parallèlement à une vie, parce que parfois le secret peut advenir, c'est-à-dire qu'on n'en a pas conscience avant, et il y a une expérience qui fait qu'on découvre quelque chose qui ensuite va devenir l'objet d'un secret. C'est le cas par exemple du personnage de l'immoraliste dans le roman de Gide, où Michel, quand il réunit tous ses amis, leur raconte un secret qui est le sien, ou du moins par récit interposé. Lorsqu'il est en Algérie, il tombe malade, et pour le soigner, sa femme l'enferme dans une chambre. Et dans cette chambre-là, elle invite des petits garçons, des enfants, parce qu'elle-même s'en occupe à l'extérieur. Et en fait, André Gide se prend désir pour ces enfants-là, et puis cherche à les revoir, etc. Et c'est comme ça que lui-même va prendre conscience de son homosexualité et de son éphébophilie, qui ensuite va devenir son propre secret. Et donc c'est quelque chose qui advient, plus que ce n'était déjà là.
Donc tu veux dire qu'en fait, le secret n'existe pas en tant que tel, en fait. C'est un objet qui n'est pas secret au départ, qui devient le secret.
Exactement, on le construit en tant que secret.
Ok, il y a une partie double au secret, en fait.
Ouais.
Et on a nos propres secrets et on doit porter ceux des autres.
Oui, tout à fait.
En quelque sorte.
Bah, le secret n'existe que, j'ai l'impression que le secret n'existe que dans le rapport à l'altérité aussi. Dans le sens où on a un secret que pour ou contre les autres, ou par les autres, ou voilà. C'est ce rapport aussi, il me semble, au fait de dissimuler, à la honte, à la culpabilité, etc., dans certains cas, ou justement au fait de devoir protéger. Et si on protège pas de soi, on protège de l'autre, et réciproquement.
Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que le secret, c'est aussi peut-être ce qui constitue une identité, et l'identité n'aurait pas de sens sans altérité.
Oui, tout à fait, mais du coup, l'identité, elle peut se trouver morcelée, parce que, par exemple, là, je pense à d'autres personnages de romans, que sont Michael et Anna Schmidt dans Le Liseur de Schlick. Et en gros, un jeune garçon tombe amoureux d'une femme un petit peu plus âgée que lui. Et il mène une histoire d'amour, et puis du jour au lendemain, la femme disparaît. Et puis plus tard, après ses études de droit, il assiste au procès de Nuremberg et découvre en fait que cette femme-là était dans la SS. Et en fait, l'identité, toute la personnalité qu'il avait construite autour de cette femme-là s'écroule. Et il découvre en fait plusieurs choses sur elle, sur son passé. Donc en fait, il remarque qu'il ne connaissait absolument pas cette femme-là qui pourtant en fait a entretenu un amour avec lui.
Et du coup, on pourrait dire aussi qu'une des caractéristiques principales du secret, c'est qu'il est voué à être révélé, ou en tout cas qu'il y a la possibilité de le révéler. Et c'est peut-être ça aussi qui le distingue, par exemple, du mystère, et qui nous permet d'établir vraiment une distinction avec ça, où l'idée du mystère, c'est vraiment de dire qu'il y a quelque chose qui nous est caché, mais qui est impénétrable, et c'est un peu lié à toutes les notions religieuses, etc. Alors que là, justement, il y a ce moment où le secret est révélé, et il découvre, en fait, toute une facette de la personnalité de cette femme-là. Et c'est ça aussi, c'est sûrement là que réside le pouvoir du secret, je pense aussi, et le pouvoir de l'information que contient le secret.
Oui, parce que ce que j'ajouterais à ta distinction, c'est aussi que dans le secret, il y a de l'intention et pas dans le mystère. derrière. Ouais. Le mystère existe, Dieu par exemple, ou autrui, mais le secret, il est construit, comme on l'a dit, comme objet. Et ouais. Donc c'est pour ça en fait qu'il peut être révélé, parce que c'est une construction humaine.
Et donc ça relève du choix, on pourrait dire, peut-être aussi.
Voire même de la liberté.
Ouais, carrément. Alors après, est-ce que c'est toujours un choix conscient? C'est aussi une autre question qu'on peut se poser. Parce que moi, quand je me suis posé les questions autour du secret, que j'ai essayé de définir cette notion, je me suis dit, mais parfois, il y a des secrets qui nous sont imposés aussi. Et ça peut souvent être lié à l'idée du tabou et de la norme sociale et le fait que, en fait, des fois, ça paraît impossible de révéler quelque chose. Et on peut se dire, en fait, c'est vraiment inconscient, c'est un choix inconscient de « je vais cacher ce détail-là de ma vie parce que je ne peux pas en parler ». Il n'y a pas l'espace pour, il n'y a pas le... Enfin, la société me l'interdit, quoi.
Et à l'inverse, on a le secret de Polichinelle dont tout le monde est au courant, mais on fait genre. C'est ouais. les deux opposés, en fait.
Ouais, c'est
le
ça.
Tabou et le secret de Polichinelle, un peu.
Et parfois, l'un entraîne l'autre. Genre, le tabou peut entraîner vraiment l'émergence d'un vrai secret et de quelque chose de personnel. À l'échelle personnelle, en tout cas, ça devient un secret. Après, par exemple, je pense au cas de, par exemple, de pédophilie dans l'Église catholique et quelque chose qui était vraiment avéré, c'était un tabou généralisé. Il y avait plein de gens qui savaient que ce genre de choses se passaient, mais vu qu'il n'y avait pas l'espace pour en parler, bah, les personnes qui vivaient ça à l'échelle personnelle le gardaient pour elles, quoi.
Non, tu parles du fait qu'il y ait un espace, par exemple, pour en parler, parce que si tu remarques, il y a toujours une tension entre le montrer et le cacher dans le secret. Parce que il y a différentes sphères qui se confrontent les unes aux autres, et en fait, tout dépend en fait de la quantité d'informations que les unes vont communiquer aux autres entre elles, tout simplement. Et ça distingue en fait différents espaces de sociabilité ou différents espaces, différents, on pourrait dire des champs, pour parler un peu comme Bourdieu, entre lesquels il y a plus ou moins de secrets et donc de rapports, de connaissances, qui déterminent ensuite la relation que tu as avec l'autre, en fait, tout simplement.
Ouais. Complètement. Mais du coup, en fait, c'est en ça qu'on voit qu'il y a une forme de pouvoir, que le pouvoir est directement lié au secret aussi,
ouais, tout à fait.
Avec l'idée que quand on possède une certaine connaissance, on a parfois même une position de supériorité par rapport à notre interlocuteur. Et dans le sens où quand on garde quelque chose pour nous, on sait, on a la connaissance de quelque chose que la personne en face de nous n'a pas. Et donc, ça peut se rapprocher d'une certaine forme de supériorité, on va dire, de domination même. Sur autrui, quoi.
Oui, tout à fait. Ben, c'est celle du maître chanteur, c'est-à-dire qu'il détient, admettons, un secret que l'on cherche à garder auprès des autres. Et le problème du maître chanteur, c'est qu'il prend plaisir, en fait, à avoir une influence sur nous, simplement parce qu'il est en position de pouvoir et que ce qui est secret pour les autres ne l'est pas pour lui. Ouais. En fait, il en profite.
Mais moi, je ne suis pas d'accord entièrement avec ça, parce que je pense que le fait de, justement, partager un secret ou être en possession d'un secret, ça peut, effectivement... permettre d'être dans une position dominante, mais à l'inverse, je pense que ça peut aussi rendre vulnérable, dans le sens où quand on a un secret qui nous est partagé, c'est aussi une énorme responsabilité. Et je pense par exemple, tu vois, au cas des gens qui cachaient les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Typiquement, les gens qui étaient détenteurs de ce genre de secret, ils étaient dans une position à risque.
Oui, totalement. Et puis, il y a aussi une forme de libération dans le fait de révéler un secret. Et typiquement, avec l'exemple que je donnais tout à l'heure par rapport à l'Église catholique et au tabou autour de la pédophilie des prêtres, etc., bah, justement, c'était un secret qui était imposé aux gens et que les gens subissaient plus qu'ils... Ouais, enfin, c'était pas forcément un choix, justement, conscient et délibéré, quoi. Et donc, à la fois, il y a une prise de risque et en plus, il y a aussi une sorte de poids psychique dans le fait de garder un secret. Et voilà.
Mais en revanche, ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'un secret est forcément voué à être révélé, moi, je pense que je ne suis pas entièrement d'accord, parce que j'ai l'impression que, justement, un secret existe parce que sa définition, c'est le fait qu'il ne peut pas être dit ou révélé, en fait, et qu'à partir du moment où il est révélé, ce n'est plus un secret. Et il y a une formule de Derrida qui dit « un secret, ça ne se dit pas ». Donc, en fait, il y a vraiment, dans la définition même, ce fait de, à partir du moment où... le dévoilement ou justement la révélation du secret entre en jeu, le secret n'est plus.
Ouais, totalement.
Et c'est un peu le paradoxe, quoi. C'est qu'en fait, l'objet du secret n'est jamais, est toujours tenu secret, en fait. On sait que le secret existe sans savoir ce qu'il est vraiment.
Ouais, complètement.
Sans connaître son contenu.
En fait, je dirais que c'est peut-être pas le fait... Non, en fait, peut-être que le secret n'est pas voué à être révélé, mais qu'il y a toujours cette possibilité-là, plutôt. Et que c'est ça, en fait, le danger et le risque qui pèse sur le secret.
Bah, c'est une tension constante, en fait, de l'être, enfin, de l'existence du secret.
Est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il y a quand même une forme de pouvoir dans le fait de posséder un secret et de le conserver, en fait.
Bah oui, parce qu'en fait, on peut compromettre autrui en révélant le secret.
Ouais.
Et aussi se servir de son secret contre lui, par exemple. Ce qu'on appelle l'instrumentalisation du secret.
Complètement.
Enfin, moi, pour moi, ça se rapporte vachement au lien entre savoir et pouvoir. Alors, ouais. En fait, le secret implique une connaissance, implique un savoir, et savoir, c'est pouvoir.
Oui, parce qu'à partir de ce savoir-là, tu peux l'instrumentaliser, en faire quelque chose, et en fait passer au-delà de l'ordre de tout ce qui relève du noème et de la pensée, pour quelque chose de très pratique, en fait.
Ouais, complètement. Du coup, il y a une dimension très politique au secret, finalement.
Carrément.
Et ça me fait un peu penser à ce que Foucault dit dans Surveiller et punir, quand il parle du biopouvoir. Donc, en fait, le biopouvoir, c'est le contrôle des grandes institutions sur la vie des individus. Et donc, c'est la manière dont les grandes institutions peuvent contrôler la vie des individus en possédant une forme de pouvoir sur leur vie et en contrôlant en fait leur vie, en la surveillant, etc., de plein de manières différentes. Et en fait, une des manières aussi d'asseoir ce biopouvoir, c'est de posséder certaines informations, de contrôler aussi l'information et notamment parfois de dissimuler certaines informations politiques.
Je pense que c'est important de préciser que l'axe principal du biopouvoir, c'est la santé. Ouais. C'est le savoir médical, en fait, qui permet de dicter les comportements des individus. Par exemple, fumer-tu, boire, c'est pas bon, manger du beurre, ça donne le cholestérol, etc. Ouais. Et en fait, ça nous rend complètement parano par rapport à notre santé. On y pense peut-être beaucoup trop, en fait. Et c'est justement ce savoir scientifique qui nous... Bah, du coup, par rapport au secret, le secret, il résiderait dans le fait que nous, on n'a pas vraiment conscience de ce contrôle exercé par l'État.
Oui, tout à fait. Mais ça, c'est vraiment ce que, dans le discours de la modernité, c'est Habermas qui reprend une thèse de Foucault, c'est-à-dire qu'il affirme que, à l'heure actuelle, les sciences humaines, tout ce qui relève du sociologue, du psychologue, etc., jouent le rôle du panoptique. En gros, le panoptique, c'est quoi ? C'est une construction architecturale avec au centre un anneau qui émet de la lumière sur les 360 degrés et tout autour, en fait, des cellules. C'est-à-dire que le prisonnier voit toujours sans être vu, et en fait, la plupart du temps, parce que ça a été mis en place, les prisonniers devenaient fous et se suicidaient. Et en gros, c'est le fait qu'en société, on est toujours vu, mais en fait, nous, on voit rien. On devient même inconscient, en fait, de mécanismes qui nous dominent, en réalité. Et ça, c'est déjà un thème que Nietzsche aborde. Alors, c'est dans ce qu'il appelle « casuistique de psychologue », dans « Le crépuscule des idoles ». Et en gros, il affirme que celui qui se dit grand désintéressé, en réalité, c'est un contenteur des hommes. Donc, il utilise notre secret pour ensuite pouvoir l'instrumentaliser, avoir un pouvoir et le signifier dans l'ordre pratique.
On pourrait dire qu'il y a le secret du pouvoir et le pouvoir du secret.
Oh !
Magnifique. Ah.
Et moi, c'est marrant, ça me fait penser un petit peu à une anecdote que j'ai entendue ça il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous avez... On sait tous, on a tous déjà entendu le fait que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée.
Oui.
On a tous déjà entendu dire ça. Et en fait, j'ai lu quelque part que, apparemment, cette sorte de dicton en fait, a été publié dans les années 50-60 dans un magazine américain, magazine de santé américain, qui donc voilà montré par une étude, je ne sais plus trop laquelle, qu'effectivement, le petit déjeuner était le plus important repas de la journée. Et il s'est avéré qu'en fait, le directeur de ce magazine, c'était le directeur d'une chaîne de céréales, de Kellogg's.
Kellogg's.
Voilà. Et donc, en fait, c'est pas exactement le même mécanisme qu'un secret. Mais c'est pour illustrer le fait que, justement, tous nos mécanismes inconscients et les choses qu'on a entendues toute notre vie, en fait, sont des choses qui ont été instrumentalisées auparavant.
Des espèces de mensonges.
Et de la manipulation.
Pouvoir trouver de l'intérêt, quoi.
De manipulation, de la connaissance.
Puis après, ça peut aller jusque, par rapport à la connaissance et aux soupçons, ça peut aller jusqu'à des grosses théories complotistes, par exemple, la zone 51 aux États-Unis ou des choses comme ça. En fait, jusqu'où va le secret, où commence la spéculation et où commence le délire.
Ouais, c'est parce qu'aussi, il y a en fait l'idée du secret qui peut avoir aussi, qui peut exercer un certain pouvoir sur les individus, dans le sens où certaines personnes, quand elles se rendent compte qu'on leur a caché des choses et que le pouvoir leur a caché des choses, bah en fait, c'est comme une sorte de réaction en chaîne, on s'imagine qu'il y a d'autres choses et encore d'autres choses, et puis après, ça. Il y a une sorte de pouvoir qui est exercé sur ces personnes-là, qui a un pouvoir aveugle, quoi. De vraiment... où ces personnes-là se convainquent qu'il y a plein de secrets encore à révéler. Et donc, on en vient à des raisonnements absurdes et à des théories du complot, quoi.
Parce que nous, le peuple, nous n'arrêterons jamais d'interpréter un effort herméneutique un peu constant dans ce que le pouvoir nous donne comme indice. Et donc le moindre petit indice va être pris et
amplifié,
voilà, c'est ça.
Mais ce qui est intéressant, c'est que le secret d'État, c'est un concept, c'est quelque chose qui est institutionnalisé et qui est officiel. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'un État a des secrets d'État et qu'il y a une certaine légitimité des États et des gouvernements à avoir leurs secrets d'État, justement, mais en vertu du bien commun, en vertu de la sécurité nationale, etc. Mmh. Et qu'on a tous, en tout cas en tant que citoyens, accepté qu'il y avait des secrets d'État. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que s'oppose à ça aussi la liberté d'information que chaque individu est censé avoir dans une démocratie, en l'occurrence. Et du coup, je pense qu'il y a cette tension un peu constante, surtout dans le domaine de la presse, je pense, des journalistes, etc., qui essayent d'exercer justement ce droit d'information. Où s'arrête, en fait, où est la limite entre le secret d'État pour le bien commun et la liberté des citoyens à être informés, à savoir, quoi.
Et justement, en fait, je crois que c'est la mission dont s'investissent les journalistes en permanence, c'est d'essayer de révéler ces secrets, de les décortiquer, etc. Mais on voit aussi qu'il y a quand même, enfin, qu'on revendique, du coup, c'est ce que tu disais, la nécessité de préserver certains secrets pour le bien de la population, pour conserver aussi l'ordre public, etc. Et je pense aussi que, enfin, certains journalistes œuvrent à ça, à l'inverse aussi. Et que, en effet, peut-être même parfois, les médias ont conscience qu'il y a certains secrets qui ne mériteraient pas d'être révélés. Ouais, voilà.
Non, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne sait même pas vraiment si ces secrets. En fait, est-ce que les révéler, ce serait porter atteinte au bien commun ? Parce que justement, on ne sait pas quel est leur objet. Ouais.
Bah, carrément, moi, ça me fait penser à l'exemple des attentats, par exemple. Et je ne sais plus qui est-ce qui m'a dit ça, ça devait être mes parents. Mais des fois, à la fin de l'année, ils disent, alors oui, il y a tant d'attentats qui ont été déjoués dans l'année. Ou alors, ils ne disent pas le nom précis, mais ils disent, il y en a eu beaucoup, quoi. Mais on ne l'a dit à personne parce que, on veut pas que les gens paniquent et on veut pas que les gens se disent qu'il y a des terroristes qui courent les rues, quoi.
Oui, probablement que si les secrets d'État étaient révélés, on vivrait dans un climat anxiogène,
c'est ça.
Totalement insupportable.
Et après, à l'inverse aussi, se dire qu'il y a des choses qui nous sont cachées, c'est aussi anxiogène parfois. Parce que il y a aussi, en fait, le fait de savoir, ça permet aussi d'exercer un contrôle et de sentir plus en prise, plus contrôlant sur sa propre vie. Et du coup, ça fait que parfois, quand un État ou une forme de pouvoir qui est un peu supérieure à nous conserve des secrets, ça fait qu'on a l'impression qu'on est complètement dépossédé de notre pouvoir d'action.
Et oui, et puis d'ailleurs, c'est une attitude politique un peu paternaliste, quoi.
Ouais.
C'est comme quand on dit pas tout à son enfant pour pas qu'il ait peur, pour pas qu'il flippe, etc. Parce qu'il est trop jeune pour comprendre. Donc nous, on peut avoir aussi cette frustration en tant que citoyen.
Complètement. Et d'ailleurs, c'est en ça aussi que parfois la révélation du secret, ça peut être un outil de résistance contre le pouvoir, justement. Et un outil de revendications, de militantisme, etc. Et c'est souvent en fait comme ça qu'on milite.
C'est parce qu'on a associé le secret à la protection des individus, mais du coup ça suppose qu'en fait les individus n'auront pas la force de supporter ce secret.
Ouais.
Ou juste cette vérité du coup, puisque c'est plus secret.
Oui, et puis même à l'échelle de l'État, par exemple, si on regarde sous le régime communiste, les samizdats qui passaient, ne serait-ce que des livres et de la littérature, en fait, pouvaient compromettre un pouvoir qui était beaucoup plus grand qu'eux.
Et maintenant, nous allons écouter Secret de The Pierces. Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if one of them is dead. Smile like you've been told a secret. Now you're telling lies, cause you have sworn to keep it. But no one keeps a secret, no one keeps a secret. Why, when we do our darkest deeds, do we tell? They burn in our brains, become a living hell. Cause everybody tells, everybody tells. Keep it, swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if one of them is dead. Look into my eyes, now you're getting sleepy. Are you hypnotized by secrets that you're keeping? I know what you're keeping, I know what you're keeping. Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret
one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead. Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead. Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead. Yes, two can keep a secret if one of them is dead.
Vous venez d'écouter Secret de The Pierces.
K, qui est un personnage de Kafka dans le procès, se voit en fait attenter à un faux procès et tout lui est caché, c'est-à-dire que des secrets sont maintenus pour le public, tout simplement par un pouvoir qui est plus grand. Mais ça présuppose en fait un espèce de rapport d'altérité, c'est comme si l'État était hypostasié, c'est-à-dire comme si en fait c'était un individu en face de lui et qu'ils interagissaient dans une relation inter-individuelle en fait, où il y avait un rapport encore une fois entre montré et caché, l'État cachant en fait le secret du procès de l'accusé.
Ok, donc c'est intéressant, du coup, ça pousse à s'interroger sur la portée du secret dans une dimension plus individuelle, personnelle et intersubjective, et aussi quel impact ça peut avoir sur l'individu. Est-ce que ça a un impact différent? Parce qu'en soi, le fait de savoir que l'État, en tant qu'institution et collectivité, nous cache des choses, c'est déjà quelque chose, et ça peut déjà être, entre guillemets, inquiétant et dérangeant. Mais quand c'est une personne proche, ou pas forcément, mais juste un individu qui est à la même échelle que nous, quoi, qui est notre égal, se dire que cette personne-là peut nous cacher des choses, là, ça pose peut-être une question plus éthique.
Oui, parce qu'il y a une rupture du contrat de confiance que tu instaures quand tu es ami ou que tu fais partie de la même famille. Donc ouais. Garder un secret, ça prend même l'allure d'une trahison.
Ouais.
Et donc de la rupture de ce contrat tacite, évidemment. Mmh.
Complètement. Et en même temps, c'est aussi un moyen de préserver cette relation-là et ce contrat-là. Mmh. Justement parce que parfois, quand on révèle certains secrets, ça brise des amitiés, ça brise des familles.
Et puis moi, je suis plutôt d'avis que le fait de garder des secrets, comme c'est normal, ça devrait faire partie du contrat. Et enfin, respecter l'altérité de l'autre,
c'est expression un peu la base. On doit garder notre jardin secret, quoi.
C'est ça.
Oui, mais j'ai l'impression que du coup, dans tous les cas, le secret marque une coupure ou une rupture entre celui ou ceux qui savent. Mmh. Et ceux qui ne savent pas, ou qui ne doivent pas savoir, en l'occurrence.
Mais est-ce que ce ne serait pas, je te demande même, mais par exemple, en gros, est-ce que ce ne serait pas un peu lévinassien dans le sens où on est l'obligé d'autrui, et dans ce sens, on ne lui devrait pas la vérité quelque part?
Ouais.
Dans le sens où on est toujours dans un rapport, enfin, on doit toujours se placer dans un rapport d'honnêteté, et pas caché, enfin, je ne sais pas trop.
Ouais. Après, je pense qu'il y a des secrets, les cacher, enfin, c'est toute la question, est-ce que l'omission, c'est de la malhonnêteté, en fait? Est-ce que dissimuler une partie de la réalité, c'est vraiment... Parce qu'en fait, ça voudrait dire que là, le secret, ça devient presque un mensonge.
Oui. Et puis il y a des choses qui... En fait...
C'est pas toujours un mensonge, en fait.
C'est là la différence entre secret et mensonge. Ouais. C'est que dans le mensonge, tu crées une autre réalité aussi. Tu falsifies une réalité, alors que dans le fait d'omettre, tu ne fais rien. Tu ne portes pas atteinte à une réalité qui existe déjà. Simplement, tu choisis de ne pas la dévoiler entièrement.
Oui, c'est ça.
Après, en vertu de la conservation du secret, on doit aussi mentir. Du coup, le mensonge peut être mis au service du secret, mais peut-être pas l'inverse.
Ouais.
Mmh. Ouais.
C'est vrai, et puis quand tu es dépositaire d'un secret, en fait, parfois tu peux ne pas le savoir. C'est-à-dire que quelqu'un peut se comporter d'une certaine manière avec toi, te confier certaines choses. En fait, c'est le cas de la bourde. Tu la répètes parce que tu te dis, mince, pour moi, c'était en rien un secret. Il n'y a pas du tout le même degré d'importance que tu accordes.
Complètement. Du coup, en fait, aussi, il y a toute cette question de recevoir un secret... C'est comme si tu devenais à ton tour aussi dépositaire des sentiments de l'autre et ça crée aussi un lien. C'est aussi un moyen de rapprocher les personnes finalement, de partager des secrets.
C'est une preuve énorme de confiance, d'amour, En fait, tu montres que tu choisis l'autre aussi en lui partageant un secret.
Bah, c'est toute l'importance de la confidente dans les tragédies.
Oui, tout à fait.
Racinienne ou grecque. Dans Phèdre, la confidente, c'est l'une des personnages les plus importants.
Ouais.
Parce que c'est celle qui a vraiment. L'idée la plus précise peut-être de l'amour que Phèdre porte à Hippolyte. Cet amour incestueux.
Oh.
Et du coup, en fait, on peut se demander pourquoi on a ce besoin aussi de partager des secrets. Et c'est probablement aussi parce qu'il y a, dans le fait de partager un secret, l'expression d'un besoin de reconnaissance et de compréhension de la part de quelqu'un d'autre. Et justement, parce que ce qu'on dit, on l'a déjà dit précédemment, mais enfin, en fait, partager un secret, c'est aussi un moyen de se libérer d'une certaine manière d'un poids. Mais en même temps, est-ce que ça peut pas paraître comme quelque chose d'égoïste à certains moments aussi? Parce que c'est aussi imposer, du coup, le poids qui était le nôtre à quelqu'un d'autre, finalement.
Ouais, tu l'engages, en fait, en quelque sorte.
Ouais, c'est ça.
Tu l'engages et tu l'obliges à garder ton secret, ou du moins, en fait, tu peux le compromettre. Donc, quelqu'un lui demande, oui, mais t'es... Enfin, admettons, dans une situation de relation entre amis, la personne lui dit, oui, mais t'es sûr que nanana a pas dit ça? Oui. Tu peux... En fait, ça engage ta loyauté envers telle ou telle personne.
Exactement.
Bah, ça rend vulnérable.
Ouais. Ouais.
Mais c'est ça, c'est pour ça que, du coup, c'est une énorme preuve de...
Ouais.
De l'éligibilité, en fait, le caractère, justement, de « je choisis, justement, de te partager ça
mm-hmm. »,
c'est, bien sûr, tu engages l'autre de manière vulnérable, mais l'autre qui accepte le secret et qui, du coup, se rend aussi responsable par choix de ce secret, se rend vulnérable, mais aussi par choix. Il y a aussi cette dimension-là, j'ai l'impression.
Et après, il y a aussi, parfois, justement, le choix enfin, de la personne qui reçoit le secret lui est retiré. Parfois aussi, il y a ce truc de « on impose notre secret à la personne en face de nous », et ça peut mettre la personne dans une situation très très inconfortable. Justement, bah, je sais pas, moi, admettons, j'ai braqué une banque et je vous le dis, je pense que vous auriez préféré ne pas le savoir. Quoi. Parce que, bah, en fait, vous êtes maintenant des responsables, enfin, vous êtes responsables de mon secret, et en fait, si la police vient vous interroger, et bah, vous devrez choisir entre dénoncer votre ami ou préserver un secret qui vous met, vous, dans une position, en fait, qui est dangereuse.
Porte à faux.
Mais c'est intéressant parce que du coup, ça voudrait dire que ne pas partager un secret, c'est aussi faire le choix. Et c'est aussi une preuve d'amour dans un autre sens aussi.
Exactement.
Que de ne pas impliquer l'autre.
Mmh.
En fait, je pense que tout dépend de la nature du secret, finalement.
C'est pour ça tu revenais sur le paradoxe de Lévinas,
oui.
que tu as souligné avec brio. D'ailleurs, non, je rigole. mais parce que tu disais, je dois tout à l'autre, parce que bah, je suis vraiment l'esclave de l'autre. Hein, dans la philosophie de Lévinas, c'est ça, l'autre est supérieur à moi, je lui dois tout, etc. Donc lui peut garder ses secrets, parce que c'est autrui, et moi je lui devrais tout. Et tu parlais de vérité, de voir la vérité à quelqu'un, mais en fait, cette vérité-là, c'est là qu'il faut se poser la question de son caractère... positif, négatif, si ça implique l'autre. Parce que comme tu dois... Ce qui est premier chez Lévinas, c'est protéger l'autre. Donc lui dire la vérité, c'est pas forcément le protéger, en fait.
Okay.
Et donc il y a un rapport d'altérité qui s'instaure entre les deux.
En fait, il y a vraiment cette idée de balance et d'attention prêtée à l'autre, quoi. Et d'empathie, finalement.
D'amour, de
d'amour. C'est ça. Donc les émotions jouent un rôle très très important aussi dans... Donc tout,
bah, c'est tout ça. C'est le secret, j'ai l'impression que c'est quand même au centre de tellement de relations,
ouais.
Qu'elles soient amicales, amoureuses, même familiales. C'est pas pour rien qu'on parle de secret de famille et que c'est des choses qui sont en mouvement constamment en chacun de nous et qui rythment un peu nos existences aussi.
Du coup, est-ce qu'on pourrait pas se demander aussi s'il y a nécessairement toujours en fait de l'affect qui est lié au secret?
Moi, j'aime bien cette question parce que justement, garder un secret des années, c'est aussi très bien gérer ses émotions.
Ouais.
Quand t'es seule à garder un secret pendant 10-20 ans, ça veut dire que vraiment t'as besoin de personne pour partager ce poids avec toi et tu protèges les autres. Donc là, c'est vraiment une preuve de solidité, quoi.
Tu protèges les autres ou tu te protèges toi aussi? Par exemple, dans le cas de les personnes qui come out, enfin genre qui font leur coming out, bah ils ont gardé un secret pendant super longtemps et pour se protéger eux surtout.
Complètement. Mais est-ce que tu te protèges vraiment aussi quand
C'est ça aussi en fait. C'est qu'il y a aussi cette idée que justement. Le secret, plus... En fait, il y a un peu cette idée que plus longtemps il est gardé, plus il pèse, j'ai l'impression, en fait, sur les épaules de la personne qui le garde, quoi. Et j'ai l'impression que... Enfin, je connais peu d'histoires de secrets qui ne sont pas révélés à un moment, à partir du moment où ils engagent l'affect et...
Parce que les autres sont secrètes.
Quoi?
Je peux pas connaître les histoires où le secret est pas révélé. Attends, je suis en train de me perdre.
Oui, bien sûr, tu peux pas connaître... Mais oui, bien sûr, t'as... Oui, ok, d'accord. C'est vrai, en effet. Après, c'est vrai que des fois on dit ah machin truc a emmené ses secrets dans sa tombe. C'est vrai que ça arrive.
Oui.
Ça arrive.
Mais en tout cas, sinon c'est l'effet boule de neige parce que si le secret. Ah, quoique, c'est peut-être du mensonge. Admettons, un mari trompe sa femme et il engendre en fait toute une famille, etc. Et au fur et à mesure du temps, en fait, le secret grossit.
Ouais.
Comment est-ce que ça devient du mensonge ou c'est toujours du secret par exemple? Parce que s'il ne lui ment pas nécessairement.
Bah en fait, ça devient du mensonge si elle lui pose des questions et qu'il dément en fait la situation.
Bah, c'est ce que disait Maëlle tout à l'heure, c'est que pour protéger le secret, parfois le mensonge entre en jeu en fait.
Exactement.
Très facilement même, j'ai l'impression.
Alors qu'en fait, il peut garder le secret si elle ne soupçonne rien.
Mm-hmm.
En fait, en plus, c'est marrant parce que je pense que la réaction de la femme, ça sera probablement de dire il m'a menti. Alors que ça se trouve, elle lui aura posé aucune question, on va dire, et il lui aura caché.
Oui.
Mais est-ce que c'est vraiment un mensonge? Donc, c'est toute la question. Mais c'est en ça aussi que donc l'éthique rentre en jeu et qu'on se rend compte que si le secret est pas si loin que ça du mensonge, ça veut dire qu'il y a une portée vraiment très très négative et irrespectueuse.
Le double tranchant justement du secret. La dualité du secret, j'ai l'impression.
La duplicité du secret.
Duplicité. J'adore.
Complètement. Et alors, moi, en pensant à ce sujet, ces derniers temps, j'étais en train de lire Triste Tigre de Neige Sino. Et ça parle du tabou de l'inceste et du secret qu'elle a gardé sur l'inceste qu'elle a vécu pendant des années à cause de son beau-père. Et elle explique, il y a une phrase qui m'a marquée, donc j'ai pas la phrase précise, mais il y a un passage qui m'a marquée, où en fait, elle dit que, elle a gardé le secret, pas parce que elle avait peur en fait, qu'il soit révélé au grand jour, et elle avait peur que le regard des autres change, ou je sais trop quoi, ou parce qu'elle voulait, elle avait peur de son beau-père et des conséquences que ça allait avoir en fait, sur sa relation avec lui. Sur sa famille, etc. Mais surtout parce qu'en fait, pour elle, tant que c'était pas révélé, ça n'existait pas, en fait. Tous les abus qu'elle vivait n'existaient pas, tant qu'ils n'étaient pas, en fait, mis à jour, puisque c'était dans une sphère tellement, interpersonnelle et quelque chose qu'elle subissait tellement dans l'ombre, que pour elle, en fait, c'était vraiment quelque chose d'irréel. Et donc, c'était aussi une manière de se protéger, finalement, de ne pas révéler quelque chose qui est pourtant affreux et qui l'aurait sauvé, probablement. Mais c'est vrai que... c'est quand même particulier, je trouve, comme conception du secret. Cette idée que tant qu'il n'est pas révélé, il n'existe pas, même pour la personne qui le porte, en fait, parfois.
C'est un peu paradoxal, parce que ce ne serait pas secret si ça n'existait pas.
Ouais, mais il y a un peu une dimension performative dans le sens où tu l'énonces, et à ce moment-là, ça devient une réalité parce que tu l'énonces nécessairement à quelqu'un. Et donc, à ce moment-là, il y a une dimension de reconnaissance qui entre en jeu.
Mmh. C'est ça. Mmh. Et donc, en fait, il y avait peut-être cette idée aussi que tu disais que le secret advenait, dans le sens où je pense que... Peut-être qu'elle se rendait pas compte en fait qu'elle portait un secret sur le moment.
Ça me fait penser à Hegel parce que pour lui la conscience c'est forcément la reconnaissance.
Ouais.
En fait t'as pas conscience si t'es pas reconnu par une autre conscience.
Ouais, c'est.
Mmh.
C'est un peu ça en fait.
Ouais complètement. Ouais où il y a un peu ce truc de c'est en germe en toi et t'as des intuitions mais t'as pas de conscience pleine.
Ouais et t'attends d'être objectivé par un tiers.
Ouais complètement. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce que cette conception là parce que par exemple dans la psychanalyse. Enfin, quand on effectue une psychanalyse, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette nécessité de vocaliser ce qui se passe dans la tête de la personne. Et c'est comme ça que la méthode psychanalytique fonctionne. Et en fait, même si la personne elle a ses intuitions en germe, etc., quand la personne vocalise ce qui se passe dans sa tête, alors elle a conscience. Et c'est justement le but de la psychanalyse, c'est de lui faire prendre conscience de certaines choses, quoi. Ouais, il y a vraiment ce truc-là.
Ça me fait penser, je ricoche un peu sur ce qu'a dit Maël aussi par rapport à Hegel, c'est-à-dire que quand il revient là-dessus aussi dans la phénoménologie de l'esprit, en gros, il nous dit quand j'énonce quelque chose, ça passe dans l'élément de l'extériorité. Il dit le moi s'extériorise lui-même et passe dans l'élément de la permanence. En gros, tu perds ton discours parce qu'il est susceptible d'être réapproprié par un autre, par ce tiers même en fait, à qui tu l'énonces. Et à ce moment-là, tu es dépossédé de ta propre réalité.
Ouais, il y a vraiment ce truc de finalement, tu partages un bout de toi aux autres. Et donc, les autres peuvent en faire ce qu'ils veulent.
Exactement.
Et en fait, peuvent manipuler, finalement, l'information révélée.
C'est ça.
Et la détourner.
Et on en revient à la thématique du pouvoir que donne le secret, en fait.
Exactement.
Tu vois, ça me fait penser, c'est marrant, parce que souvent, les secrets de famille, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de familles, quand c'est révélé, on dit toujours « Ah mais oui, mais tu savais pas !» Et en fait, il y a cette idée de comme si le secret, en fait, était transmissible alors que... qui n'est pas révélé.
Ouais.
Et c'est assez paradoxal et bizarre, en fait.
Ouais. Un peu à travers peut-être les regards...
Comme si tout le monde savait, mais sans savoir de quoi il était question, et que c'est un truc qui se transmet, qui est héréditaire, machin. Et c'est assez fascinant.
Oui, comme s'il pouvait être su sans être énoncé, finalement.
Ouais, mais comment veux-tu que je le sache, maman? Si on l'avait dans notre sang.
Et justement, dans Incendie de Mouawad, de Wajdi Mouawad, donc une pièce de théâtre, il y a cette idée-là qu'il y a un secret un peu intergénérationnel qui se transmet de génération en génération, qui est le secret de l'inceste. Je parle beaucoup d'inceste dans ce podcast. c'est terrible. Mais du coup, oui. Et en fait, cette idée que, à travers l'hérédité, le personnage, je ne me rappelle plus des noms des personnages, mais les personnages portent en eux la marque d'un secret qui date de leurs arrière-grands-parents, il me semble, de leurs grands-parents. Et c'est super intéressant, finalement. Cette idée que le secret peut être révélé des générations après, en fait. Et qu'il est presque parfois constitutif de certaines personnes.
Et qu'on peut aussi briser le cycle du secret.
Ouais,
exactement.
On a un secret à vous révéler, il y a quelqu'un dans le studio depuis le début. Et vous le saviez pas? Viens, on fait ça.
C'est Tata Monique.
Radiopium, diffusé un dimanche sur 4 à 20h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Au micro, c'était Anthony Dominici, Élise de Pennec, Marine Varem et moi-même, Maëlle Louvray. Vous pouvez nous envoyer vos réflexions sur notre adresse mail, opium.radiopium@gmail.com. Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer ou autres. Merci de nous avoir écoutés et à dans un mois.